Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du Zoom de l'info dédié au tertiaire, à l'hybridation du travail, au coworking, voilà de vastes sujets que nous allons aborder avec mes invités en plateau. Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Comment allez-vous? Vous êtes en pleine forme, je le sens.
Alors ça va, mais mieux ça serait quand même de la gourmandise.
Ah, j'adore quand vous dites ça. Bon, on n'est pas tout seul en plateau. Aïcha Folle, bonjour.
Oui, bonjour Bérénice.
Ravie de vous accueillir, journaliste.
Tout à fait, c'est un plaisir également.
Bon, dans quelques instants, on va faire le point avec vous sur la conjoncture, sur l'état du marché immobilier. Et juste avant, on accueille notre invité Victor Caro. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
CEO, cofondateur, on va le dire en français.
On peut le faire en français, ça
de Comet. Alors justement, vous allez nous présenter Comet. C'est avec vous qu'on va parler du tertiaire, hein, de ces nouvelles manières de travailler. Le travail se réinvente, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir les tendances. Mais juste avant, Sylvain, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est assez mouvementé pour le secteur.
On va dire un peu chahuté, mais comme dirait le prophète, tout bouleversement est propice au changement.
C'est vrai. Et de chaque crise peut ressortir quelque chose de très positif.
Il y a même un proverbe japonais qui dit chaque année, vous savez, les arbres perdent leurs feuilles.
Oui, c'est
mais
vrai.
Mais l'arbre est toujours là.
C'est vrai.
Il y en a un autre plus prosaïque, quand on est un genou à terre, on n'est pas couché. Voilà.
Voilà. Et bien sur ces belles paroles, du coup, nous allons tout de suite faire un point avec vous, Aïcha. Alors, voilà, l'actualité immobilière est assez riche. Je vous laisse nous décortiquer tout ça.
D'accord. Bonjour Bérénice. Alors, bonjour à tous. Alors, le marché immobilier, il continue de surprendre avec des tendances contrastées selon les régions et les types de biens. Alors, les prix des logements dans les grandes métropoles restent assez élevés, mais avec la récente baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, la BCE, on peut espérer une stabilisation, voire une légère baisse. Donc voilà, bien sûr, la BCE, elle a réduit ses taux directeurs.
Il n'y a pas longtemps, hein, il y a deux semaines.
Oui, c'était le 0,25 d'ajustement de taux.
C'est ça, le 6 juin, donc des taux directeurs de 0,25 points, tout à fait, avec un taux de refinancement à 4% et un taux de dépôt à 3,75% depuis le 6 juin, comme je le disais. Hein. Et donc pour les ménages souhaitant acheter un bien immobilier, donc cette rémission, c'est une très bonne nouvelle.
Ouais.
Les banques empruntant à des taux plus bas auprès de la Banque Centrale Européenne, bah, elles peuvent proposer des prêts immobiliers moins chers, ce qui pourrait stimuler les emprunteurs à revenir sur le marché. Donc, après une année 2023 qui a été marquée par une hausse importante des taux et une baisse des transactions. Pardon.
Alors justement, certains parlent d'une reprise du marché, des prémices en tout cas d'une reprise.
Oui, potentiellement. Alors cependant, il faut nuancer cet optimisme. Donc les prix élevés et la pénurie d'offres persiste, nécessitant donc une correction pour être accessible aux ménages.
Et alors justement, ces ajustements sont indispensables, mais il y a une situation quand même assez compliquée au niveau de la politique, hein, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. La conjoncture politique a-t-elle un impact sur le marché ?
Tout à fait, vous avez raison de le souligner, c'est un point crucial. Donc après des mois de crise, le marché immobilier, il semble connaître de légers signes d'embellie, mais l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, hein, a provoqué une hausse des taux d'intérêt de la dette française, donc l'OAT, donc l'obligation assimilable du Trésor, à échéance 10 ans, donc passant de 3 à 3,25%. Donc cela pourrait freiner la reprise espérée des prêts immobiliers.
Et alors, quelle couleur affiche le secteur en Île-de-France ? Focus sur l'Île-de-France.
Alors à Paris, les prix se sont stabilisés en mai, donc une première depuis plusieurs mois. En banlieue parisienne, les prix des appartements ont légèrement baissé, donc de moins 0,07%, et ceux des maisons de moins 0,01%.
Et côté investisseurs institutionnels
Justement, enfin, les investisseurs institutionnels, ils montrent un intérêt croissant pour l'immobilier vert et durable. Donc les fonds immobiliers se tournent vers des projets HQE, donc haute qualité environnementale, donc témoignant donc d'une volonté d'intégrer des critères ESG, donc c'est des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur portefeuille.
Et c'est vrai que ça devient de plus en plus important. Victor, peut-être une petite réaction sur la conjoncture ?
Alors moi, j'aime beaucoup le point de vue de Sylvain tout à l'heure. La conjoncture dans le monde, alors je vais parler du monde du bureau qui est le monde que je maîtrise le mieux. Le monde du bureau vit aujourd'hui une crise sans précédent. Ah, et oui. Cette crise, beaucoup ont du mal à voir une opportunité. Je pense qu'on est en revanche, enfin je pense qu'on est en réalité en train de vivre la mue que le secteur aurait dû opérer depuis 30 ans, qu'il n'a pas opéré. Voilà, je pense
oui,
que c'est
un secteur qui n'a pas été disrupté, en fait, qui aurait dû se...
Il n'a pas été disrupté, en tout cas. Il n'a pas été disrupté, on va dire, de la même façon que l'a été, par exemple, les processus du parcours résidentiel pour le logement, qui a été sévèrement chahuté. Il faut dire que les fonds d'investissement se sont tellement jetés sur toutes les initiatives PropTech, il y a eu même des surcotes absolument phénoménales, mais vous avez raison, le bureau pose question aujourd'hui sur sa refonte, et surtout cette idée parfois un peu particulière que le bureau va servir de nouvelle destination avec du logement, etc. C'est un sujet qui n'est pas complètement opéré, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la reconstruction ou la réhabilitation coûte un fric monstre. Mmh. On n'arrive pas aujourd'hui à trouver le bon modèle économique.
Mmh. Oui, et quelque part sur cette crise, sur les fondements même de cette crise du bureau, on peut trouver 1000 crises, il y en a mille raisons, il y a une raison profonde qui est que depuis 20 ans, les entreprises cherchent à avoir plus de flexibilité.
Et ça s'est accentué depuis les confinements.
Accentué exactement par les confinements, en réalisant qu'en fait, du jour au lendemain, on pouvait devoir mettre son entreprise à l'arrêt ou complètement en full remote. Et la réalité est que les propriétaires, les investisseurs immobiliers, depuis 20 ans, font la sourde oreille à cette demande, avec une vague émergence du coworking depuis une quinzaine d'années. Mais le gros problème est que cette flexibilité, la flexibilité demandée par tous les utilisateurs, elle ne fait que croître depuis 20 ans. Donc on est simplement en train enfin de faire se parler des propriétaires qui n'ont jamais voulu écouter les utilisateurs et les utilisateurs qui leur disent il serait maintenant temps de nous écouter.
Alors Comet, vous l'avez créé en 2016. Vous êtes un pionnier du travail hybride. C'est quoi le travail hybride ?
Alors, travail hybride, alors nous ce qu'on fait, je peux vous dire ce qu'on fait chez Comet. Chez Comet, c'est un spécialiste de la flexibilité, enfin de l'immobilier de bureau flexible. Et ça peut sembler être évident, mais en fait sur le marché, cette flexibilité n'existe pas. Et nous proposons une flexibilité à deux niveaux. C'est pas du coworking, on propose une flexibilité à deux niveaux. Le premier niveau, ce n'est pas du coworking, c'est une flexibilité, c'est de l'ultra-flexibilité dans du bureau, c'est-à-dire la capacité à consommer du bureau pour une demi-journée ou une journée, sous la forme d'une salle de réunion avec beaucoup de services associés comme dans l'hôtellerie, avec de la restauration, de l'accompagnement technique, de l'accompagnement sur le contenu. Et ça, c'est notre produit historique, c'est-à-dire ce sont des lieux que nous opérons à Paris, à Bruxelles, à Madrid, que nous redesignons, que nous opérons et que nous commercialisons, qui permettent d'accueillir des événements de type formation, séminaire, team building, de 2 à 500 personnes. Ça, c'est notre cœur de métier et cette flexibilité-là, déjà sur le marché, elle n'existe pas, ou bien vous la trouvez en allant dans des sous-sols d'hôtels pour une salle qui est là où on ne mettait pas de chambre, c'est-à-dire vraiment en sous-sol sans lumière naturelle.
Ou des studios de production, par exemple.
Ou des studios de production, c'est vrai qu'on n'est pas au dernier étage en ce moment même. Et avec ça, réalisant que nous avions réussi en 8 ans à maîtriser cette hyper-flexibilité, cet ultra-service dans le bureau que personne d'autre ne sait opérer, alors certainement pas les foncières, nous nous sommes mis depuis un an et demi à opérer également sur ce qu'on appelle le coworking. Donc là, vous n'allez pas louer une surface pour une journée sous la forme de salle de réunion. Vous voulez y placer vos bureaux pendant 1 ou 2 ans. Et c'est une offre que nous avons lancée il y a un an et demi.
Donc il y a une demande.
Il y a une demande. La demande, si vous voulez, je pense que depuis 4 ans, on parle du mauvais sujet. Depuis 4 ans, tous les commentateurs du marché de l'immobilier de bureau regardent les locations, regardent les locations mois après mois, en réalisant qu'on va passer en Ile-de-France d'une demande sur, enfin en tout cas d'un stock de 50 à 55 millions de bureaux, à potentiellement 10 millions de moins, 10 millions de mètres carrés en moins, parce que simplement la demande va baisser, va fléchir dans les années à venir. Ça, c'est ce dont tout le monde parle. Le vrai sujet duquel parler derrière, c'est qu'on va passer aussi d'un monde où 100% de la dépense immobilière d'une entreprise était une dépense rigide. Je signais un bail, généralement de 6 ans, voire de 9 ans, et basta, et que j'occupais en moyenne à 45%. L'occupation réelle de mes bureaux était de 45%, c'est-à-dire dramatique lorsque c'est le deuxième poste de coût de son compte de résultat. Et donc, le vrai sujet que désormais tout le monde voit, c'est justement sujet d'occupation. Et donc je pense, pour reprendre le début de ma phrase qui est un petit peu longue, je pense qu'on va passer d'un monde avant le Covid où on consommait 100 unités de surface de façon très rigide à 20% de moins, mais à moitié flexible. C'est-à-dire le bail ne représentera d'ici quelques années que peut-être 40% de ce qu'il représentait par le passé et des solutions de flexibilité à la maille de l'heure, de la journée ou de l'année.
Vous imaginez l'impact de la résistance des investisseurs? En fait, c'est un système d'effet de levier, enfin, vous connaissez. Quand on finance du bureau, on sécurise les flux, c'est la méthode des cash flows, sur 10 ans, 12 ans. Donc, quand on signe des bails fermes, d'ailleurs bails 6 ans, 9 ans, c'est en fait un mécanisme financier qui s'oppose à l'émergence ou à la flexibilité d'entreprise. Je vais aller plus loin. Ça s'oppose même à la création de l'entreprise. Parce que imaginez, vous démarrez dans une... Pourquoi le coworking a explosé ? Là, on est chez... on a nos studios chez IWG, qui est le leader mondial des espaces partagés, bon, qui était pionnier à l'époque. À l'époque, on louait la journée, on louait l'heure. Ce concept, en fait, déstabilise les investisseurs parce que leur modèle économique est basé sur la sécurisation contractuelle. Or, aujourd'hui, la flexibilité des baux, il y a une nouvelle génération d'assets et de property aujourd'hui, qui administre des espaces non plus au mètre carré, mais en termes de service. Effectivement, la mue est compliquée, parce que, imaginez, vos actionnaires et votre trajectoire de revenus, qui est basée, finalement, sur une sécurisation de baux sur 6 ans, 9 ans, il y en a beaucoup encore, hein, aujourd'hui, hein, beaucoup, beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, ça se catapulte avec un nouveau modèle économique, une nouvelle émergence d'entreprise qui dit stop. Je ne veux plus avoir un poids aussi contraint, parce que c'est une dépense contrainte, immobilière, je veux réinventer la façon dont je peux travailler. C'est vrai que les accélérateurs anthropologiques ou les accidents, de notre civilisation, comme une épidémie que personne n'avait jamais vu venir, parce que je vous rappelle que 3 semaines avant, on parlait d'une grippette, hein, voilà, ça a été quand même un raz-de-marée assez tragique. Et donc, du coup, effectivement, ça rebat toutes les cartes. Qui a d'ailleurs, intéressant, parce que vous avez été finalement pionnier,
oui,
dans
avant,
l'analyse prospective, parce qu'au début, ça faisait un peu rigoler, on disait, tiens, ils sont gentils, c'est sympa, etc. Et quand on voit l'évolution, mais je peux citer par exemple l'évolution alors, du groupe IWG qui a été pionnier, mais je peux parler de Morning, par exemple, qui est en train de développer une énorme BU hors média aussi, avec filiale du groupe Nexity, mais je peux parler de Châteaufort, je peux parler d'opérateurs, qui essayent maintenant d'utiliser l'espace comme étant un espace dans lequel il y a une mixité d'usage qui est extrêmement intéressante. Il y a un truc que j'aime bien chez vous.
J'espère qu'il y en a plusieurs, mais,
j'en écoutais un. J'aime bien chez vous, parmi vos équipes, c'est que vous êtes super drôle.
Ah.
Hyper accueillant, très flexible, et
c'est
peux
important.
Vous dire... Je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est jubilatoire.
Non, mais sérieux.
Non, c'est jubilatoire. Parce que ça donne quelque chose qui est différent dans la façon de travailler. Nous, on a fait un séminaire chez vous, ça a été super.
Génial, je suis très heureux et en plus très aligné avec ce que vous venez de dire, c'est que le gros frein au changement, c'est ce mode de valorisation. Alors même que lorsqu'on regarde...
D'accord, Claire.
Totalement. Oui. Alors même que lorsqu'on regarde une classe d'actifs qui est finalement pas si éloignée que ça, qui est le bureau, pas si éloignée que ça du bureau, qui est l'hôtellerie.
L'hôtellerie.
On réalise que dans l'hôtellerie, on ne va pas seulement valoriser un flux sécurisé qui ne veut rien dire, parce que il faut aussi se le dire, un bail de 9 ans ferme, en fait, il est ferme pour personne. Un bail de 9 ans ferme. Si on veut sortir un bail de 9 ans ferme, on pourra sortir un bail de 9 ans ferme.
C'est ça qu'il faut changer comme mentalité. Vous avez.
Chose cette mentalité. Je parlais avec pour le coup le patron d'une grande entreprise de valorisation qui est complètement conscient de ça, qui lui mentionne que désormais la valorisation du bureau doit davantage converger vers celle de l'hôtellerie. Parce que la question derrière, c'est entre un actif avec un flux de 9 ans sécurisé mais qui ne vaut rien, avec un loyer de 1 million, et un actif sur lequel vous avez une capacité par en fait la commercialisation à générer non pas 1 mais 1 million et demi, voire 2 millions
par le service,
mais de revenus par le service, par la flexibilité.
Le problème, c'est la récurrence.
Je défie quiconque de me dire que d'ici 10 ans, c'est encore le bâtiment 1 qui vaudra plus.
Tout à fait.
Et le problème, c'est qu'il y a encore une réfraction au changement qui est colossal. Et je pense qu'il y a aussi un sujet générationnel.
En France, ou parce que vous êtes dans d'autres pays, est-ce que vous constatez...
On est en Espagne et
Belgique.
C'est assez général. Il y a aussi un truc, tu en as parlé tout à l'heure, l'ESG et la RSE. L'ESG, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ratios extra-financiers qui, aujourd'hui, pour lever des fonds ou pour aller sur des marchés cotés ou des marchés réglementés, il n'y a plus photo, il faut l'être aujourd'hui. Donc, c'est une norme extra-financière.
Il n'y a plus d'investisseurs.
Comme la rénovation énergétique, etc. C'est intéressant parce que ça a changé le paradigme des assets et des analystes financiers. Avant, on n'était que sur de l'alignement financier. Aujourd'hui, on a des ratios extra-financiers sur le bien-être, sur l'énergie, la transformation environnementale et notamment les équilibres qui se font sur la façon de travailler les marques employeurs. Et là, c'est intéressant parce que la façon de traiter ses collaborateurs à travers un espace dédié et les services qui y sont, je me rappelle les premières conciergeries par exemple pour les salariés, des premières crèches qui étaient à l'intérieur des environnements de travail a révolutionné cette méthode. Et effectivement, les fonds aujourd'hui commencent à évoluer dans leur stratégie financière, ce qui sortira tout ça.
Et si je peux donner un exemple, en fait, on est convaincu plus que jamais qu'une convergence doit s'opérer entre le métier d'opérateur dans le bureau, d'hospitalité dans le bureau et le métier de propriétaire. Parce qu'en fait, tant qu'il y aura une dissociation entre les deux, le propriétaire demandera à l'opérateur de signer un bail long qui n'aura aucune valeur.
Vous, comment chez Comet, comment ça se passe?
Nous, aujourd'hui, on n'achète pas. On n'achetait pas jusqu'à maintenant. Gérez. Mais on est exactement en train de structurer pour se mettre à acheter.
Donc aujourd'hui, vous opérez de l'immobilier.
Aujourd'hui, on opère de l'immobilier en ayant initialement les quatre premières années, 2016-2020, pris à bail sur des modèles classiques parce qu'il fallait montrer comment ça fonctionnait. Il fallait rassurer. Depuis 2020, nous signons des contrats qui sont partenariaux. En fait, des contrats très inspirés de l'hôtellerie, notamment des contrats de management comme dans l'hôtellerie, où l'investissement est mis par l'investisseur en face. Et on fait ça avec Primonial, avec Altarea, avec Goldman Sachs, avec Adia et ainsi de suite. Nous sommes davantage dans des deals maintenant, des deals vraiment partenariaux de partage de la valeur qui est créée. Et ma conviction, elle est qu'on va vers un monde où pour que du bail continue d'être donné, pour qu'un utilisateur continue de signer du bail et accepte de signer du bail très long et s'y tienne, il aura besoin dans l'enceinte même du bâtiment de flexibilité. Et pour que la flexibilité fonctionne, pour que la flexibilité sur le poste de travail fonctionne, le modèle de toutes les entreprises que vous avez citées tout à l'heure, qui ont un modèle économique en fait assez challengé, pour que ce modèle fonctionne, il faut avoir une capacité à pas seulement louer des postes de travail pendant un ou deux ans, ce qu'elles font, mais avoir une capacité également à louer de la salle de réunion ultra servicée et donc plus margée. Alors, à la demi-journée,
ouais, est-ce que
vous allez investir?
Voilà. Et nous, en fait, nous venons de cette brique-là. Et nous sommes en train de remonter. En y
c'est ça, c'est souvent à la demi-journée que vous louez, par exemple. Là, un château à Levallois, vous l'avez. C'était une acquisition?
Non, celui-là, on l'a pris à bail.
Vous l'avez pris à bail.
Un château à Levallois.
C'est un château.
La nouvelle prise à bail de Comet.
Robert Nice, c'est rue de Villiers, c'est l'ancien hôpital franco-britannique. Il est dingue. C'est un château, château néo-gothique qu'on est en train de rénover, qu'on ouvrira début du deuxième quarter 2025.
Alors justement, la rénovation, un petit point là-dessus, parce que c'est important.
Oui.
Rénover un château, c'est pas...
C'est tout sauf anodin avec les ABF. Alors là, pour le coup, étant locataire, il y a une grosse partie de la rénovation et tout l'aspect réglementaire et administratif qui est du côté du bailleur. Qui est en plus un trust anglais. Mais
c'est vous qui avez été choisi pour opérer.
Exactement.
Mais est-ce que vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage?
Alors, aujourd'hui, nous avons une équipe design and build, et donc nous avons internalisé toute la partie conception. De temps en temps, nous prenons un architecte externe.
Ah, vous faites la conception.
Nous faisons la conception interne depuis le deuxième actif.
Il y a un ADN, il y a une image Comet.
Exactement.
Il y a un concept Comet.
Exactement. Le premier actif, on l'a fait avec des architectes externes parce que mes associés et moi ne venions pas de l'immobilier. Et je pense que ça a été notre chance de ne pas venir de l'immobilier, mais de venir du monde des clients.
Ça a été ma chance de ne pas venir de la radio justement.
Pourquoi
c'était une chance? Parce qu'ils sont trop formatés dans l'immobilier?
Non, parce qu'en fait, vous arrivez avec non pas le point de vue de ce qui a été fait depuis 40 ans.
Mais voilà.
De l'utilisateur, en tout cas.
Voilà, et j'ai la faiblesse de penser que lorsqu'on se demande vraiment ce que le client veut et qu'on crée un produit qui est adapté, on a tendance à avoir un produit qui fonctionne.
Aujourd'hui, les actifs que vous gérez, en volume,
combien
d'espace?
Oui, on opère 25 000 m² purement d'espace de lieux de réunion et de séminaires, avant tout à Paris. Si vous voulez, on a 14 actifs aujourd'hui qui sont majoritairement à Paris, un à Bruxelles, avenue Louise, un à Madrid en face du parc du Retiro, magnifique les deux. En plus de ces actifs-là, nous avons des actifs sur un modèle qui s'appelle Hospitality. Hospitality, c'est ce que nous avons développé pendant le Covid. Nous avons trois grands actifs de bureaux sur lesquels nous ne sommes pas locataires, mais où nous opérons des services dans les espaces communs. Et ce n'est pas la conciergerie pour le coup, parce qu'on pourra en reparler, mais ce n'est pas le métier auquel je crois pour l'avenir. Mais plutôt, nous opérons un Comet. Nous plaçons les Comet dans ces grands actifs de bureaux, typiquement à la Tour Alto à la Défense, où ensuite les utilisateurs de l'ensemble peuvent les utiliser, mais nous ne les commercialisons pas à l'extérieur.
J'ai consommé à la Tour Alto, puisque vous logez... un cimentier célèbre, Heidelberg Cement, que vous connaissez bien, puisque la Tour Alto a été faite par une architecte extraordinaire.
Magnifique, cette
Libanaise. Et d'ailleurs, l'esplanade qui est devant porte son nom. Magnifique. Et c'est vrai que le concept que vous avez est intéressant. Est-ce que dans la trajectoire de Comet, sans faire d'illustration, vous avez l'envie d'aller, par exemple, sur des trajectoires résidentielles? Je m'explique. Que le concept Comet, qui est très friendly, nous, on l'a testé. Hein, donc ça fait très bien, ça fait très pub à la télé, tu sais. Donc, j'ai testé pour vous.
Oui, tout à fait.
Et je suis pas mort. Alors, est-ce que... Parce que le co-living, aujourd'hui, l'espace partagé, ce que j'appelle moi le kibbutz urbain, est en train de se développer vitesse grand V. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de demandes de l'étranger, justement, de venir en France. Vous y croyez, vous, qu'est-ce que vous pensez de dupliquer un modèle qui s'appellerait Comet Co-Living ou Comet Urban, ou quelque chose comme ça, un truc qui claque un peu, avec un concept très friendly, avec un pricing qui soit finalement adapté, pas uniquement pour des gens qui ont des gros revenus. Vous y seriez ou pas ?
Alors, si vous parlez à l'entrepreneur, je vous dirais que, évidemment, j'ai envie de lancer 10 entreprises dans ma vie, d'accord, donc ça pourra en faire partie.
Si
vous parlez au cofondateur de Comet, je vous dirais qu'aujourd'hui, on a un potentiel tellement colossal sur notre marché qu'il faut qu'on reste focus. Et je vous dirais par ailleurs que sur ce marché, alors tout le monde ne fait pas du bon boulot, mais que certains, comme Coabs, comme Clay, font du très bon boulot sur du co-living étudiant aux jeunes actifs. Ouais. Et je pense que.
Parce que je trouverais hyper intelligent, c'est juste une petite remarque, qu'avec le concept que vous avez développé, vous n'ayez pas un accompagnement de ceux qui utilisent vos espaces.
Dans le sens, un accompagnement ?
Par exemple, vous avez des clients qui viennent et qui utilisent vos espaces et qui n'ont pas d'infrastructure parisienne et francilienne. Et parfois, ils ont besoin de... Alors, ils font leur deal, ils viennent, ils louent vos salles de réunion, ils font leur rendez-vous, etc. Et souvent, quand je leur pose la question, peut-être une idée, je trouverais intéressant d'accompagner ce mouvement d'entreprise qui finalement s'installerait un peu plus durablement, avec une offre finalement multipolaire, à la fois sur des espaces de bureaux flexibles, permettant l'émergence, mais aussi le fait que dans la charge contrainte, c'est beaucoup plus facile d'en sortir, et une offre de co-living pour des jeunes talents qu'on attirerait et qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à loger dans les grandes métropoles.
Oui, c'est vrai, c'est très juste. Et encore, on n'est pas comme Amsterdam où il est impossible de se loger aujourd'hui pour un jeune. Mais alors, si on devait développer une autre branche, moi je la verrais plutôt en termes d'accompagnement, plutôt développer cette branche conseil. Parce qu'aujourd'hui, nous réalisons que Comet devient une offre structurelle dans le mix immobilier de nos clients. Nous sommes avant tout un business de grands comptes. La moitié de notre chiffre d'affaires, nous faisons avec du CAC 40. Et au sein du CAC 40, il y a certains grands groupes, dont je ne citerai pas le nom ici, mais qui organisent plus de 400, plus de 500, voire plus de 600 événements par an chez nous, qui vont de la formation au team building à l'événement.
Donc des gros comme des petits événements.
Exactement. Et qui vont de 2 à 500 personnes.
D'accord.
Et qui représentent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année donnée. Donc nous devenons structurels dans le mix immobilier de ces acteurs, d'une part. D'autre part, plus que jamais, le marché réalise qu'il faudra lier du bail avec de la flexibilité. Donc, je pense que demain, il y aurait même un enjeu à développer un pôle davantage d'accompagnement, de conseil, en disant à ses utilisateurs,
en fait,
réduisez de moitié vos surfaces de bureau. Parce que simplement un point sur l'occupation du bureau. Vous connaissez l'occupation moyenne du bureau ? Je crois que je l'ai cité tout à l'heure.
30%.
On est 45, entre 30 et
40.
Vous
avez... 45.
Oui, mais
45.
La défense, c'est dramatique.
Alors,
la défense, c'est différent.
Mais en moyenne 45, et on pourrait se dire, génial, on a la possibilité de diviser par 2.
De vacances locatives.
Et ça, comment on explique qu'il y a juste les 45
Non, mais il y a deux sujets. Il y a la vacance de niveau 1, qui est celle-là, qui est la vacance de dire, en fait, ce sont des surfaces qui ne sont pas louées. Mais la plus dramatique, c'est la vacance de niveau 2. C'est pour toutes les surfaces qui sont louées. Elles ne sont réellement utilisées, en fait, qu'à 45%.
Et ça, comment on l'expliquait déjà avant le confinement ? Parce que depuis le confinement, on comprend, il y a le télétravail. Là, comment on l'explique depuis...
C'était déjà le cas avant.
C'était déjà le cas avant, parce qu'avec le jeu des vacances et avec simplement la rigidité du bail, si vous devez vous engager pour 6 ans sur des surfaces, la probabilité, on revient toujours au même sujet, sans flexibilité, vous êtes condamné à sous-utiliser, mais de façon dramatique, votre immobilier de bureau. Et ce qu'on voit depuis les déconfinements, c'est que ce 45%, en fait, il dessine une courbe en M. On n'est pas à ISO remplissage du lundi au vendredi. Le lundi est faible, le mardi est très élevé en occupation, le mercredi un peu plus faible, le jeudi très élevé et le vendredi...
Il n'y a plus personne.
Plus personne. C'est une courbe en M. Ce qui signifie que si en tant que directeur immobilier, vous décidiez demain de réduire vos surfaces de bureau de moitié, ça veut dire que les mardis et les jeudis, vous ne pourriez pas accueillir tout le monde. Branle-bas de combat, impossible. Mais si demain, vous intégrez intelligemment du bail avec de la flexibilité à la journée, et ben en fait vous divisez par 2 votre immobilier de bureau, et les mardis et les jeudis vous allez consommer des salles de réunion uniquement lorsque vous avez besoin.
D'abord, financièrement c'est pas le même poste, mais moi je
20% économie, 20% économie pour
utilisateur. Je reviens sur mes petites PME, mes TPE que j'adore, mes petits artisans, mes petits commerçants, toute cette entreprise qui représente aujourd'hui les 2/3 de l'emploi national. Faut quand même se le dire. L'avantage de votre système, moi, j'ai une certaine expérience dans le métier, mais je peux vous dire qu'il y a 40 ans, on ne pouvait pas créer une boîte aussi facilement, c'était pas possible. et je suis bien placé pour le savoir. Et c'est vrai que grâce à vous, on a des jeunes qui ont envie de se lancer. Ben, ils ont la possibilité d'avoir un espace à eux avec un conditionnement et un pricing qui est hyper adapté à leur situation. Parce qu'il y a aussi ça qui est important dans l'ADN que vous portez, comme les autres opérateurs, c'est que vous êtes un accélérateur de business. Vous êtes un catalyseur, finalement, de talents à la croisée des chemins dans un environnement qui est ultra friendly. Alors moi, je me méfie toujours des environnements qui ressemblent à la maison.
Entièrement d'accord.
Parce qu'on finira par ne plus sortir du bureau parce qu'on se dira on est bien chez soi.
Il faut que le bureau soit mieux que la maison, sinon pourquoi sortir de sa maison ?
Et d'ailleurs, le Covid a mis en point, a mis en lumière les inégalités de la maison entre ceux qui avaient de l'espace pour faire du télétravail et ceux qui ont vécu l'enfer avec des enfants qui braillent toute la journée. Un espace contraint, ça a été le cas des petites surfaces à Paris. C'est intéressant parce qu'on est passé, il y a 2 mètres carrés de différence entre les chambres des enfants avant le Covid et après le Covid. Les Français, aujourd'hui, ils veulent des chambres de 11 mètres carrés. Avant, on était à 9, entre 8 et 9 mètres carrés. Le coût des balcons, par exemple, des communs, qu'est-ce que c'est ? C'est pas uniquement j'ai un balcon et je regarde. C'est la perspective humaine. L'homme a besoin de regarder loin. Et dès que vous êtes dans un espace contraint, vous vous sentez complètement oppressé. Et c'est ce qui altère d'ailleurs durablement la mentalité de jeu des gens qui vivent en ville. Vous prenez un bon provincial, très gentil, adorable, vous le mettez à Paris à la conduite, 6 mois après, c'est une bête féroce. Hein.
Ah bah oui, on sait de quoi on parle. Hein.
Voilà. Merci, Bérénice.
Pour finir, on va parler d'une tendance aussi dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la traquance, la contraction de travail et vacances. Est-ce que c'est un phénomène auquel vous vous intéressez, notamment pour ouvrir peut-être des espaces, je sais
on
pas,
on
dans le sud.
Des tiers-lieux.
Ouais, voilà.
Alors, je m'intéresse à titre personnel. Je m'intéresse à titre personnel parce que je pense que cette capacité à prolonger ses vacances de quelques jours pour ne pas prendre les billets qui soient les plus coûteux et en plus de ça...
Ou avoir de la place, tout simplement.
Ou avoir de la place, tout simplement. Alors ça, j'y crois beaucoup à titre personnel. Je reviens à mon sujet de focus. Sur notre marché de la réunion du séminaire, associé à ça, notre nouveau marché du coworking et plus généralement, mon ambition pour Comet, qui est de devenir l'asset manager de nouvelle génération, qui soit vraiment capable de pousser ce nouveau mode de valorisation des actifs.
Carrément l'asset.
On a tellement de choses. En fait, quelque part, c'est que notre rôle demain est un rôle de prendre un actif et de se dire comment est-ce qu'on génère un maximum de valeur sur cet actif. C'est le rôle d'un asset, en théorie, mais qu'aujourd'hui, ils font au travers de la commercialisation qui elle-même est déléguée à un tiers, à un broker. J'essaie d'éviter les anglicismes, mais c'est compliqué dans l'immobilier quand même. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire, oui, alors deux fois par an, on se pose la question de créer une offre résidentielle, pas au sens co-living, mais au sens d'une offre de réunion et de séminaire résidentiel. À chaque fois, on se dit, énorme opportunité, mais c'est pas pour maintenant. Peut-être qu'un jour, on le fera.
Ce sera qu'une niche, quoi.
Ouais. Ouais. En tout cas,
pas assez rentable.
Quand je vois le boulevard qu'on a devant nous... Ouais. Il y a cette vraie question de savoir
Faut focus sur les priorités.
Model, il y a un vrai sujet de capacité à payer, de willingness to pay en bon anglais. Parce que si vous êtes dans une approche B2B, alors vous avez une capacité à générer un business pérenne. Si vous êtes en B2C, payerions-nous chacun pour un lieu à côté de nos vacances ?
Dernière question sur le modèle économique. Il faut parler un peu de modèle économique. Comet va bien. Et vous détenez avec vos associés 100% du capital ?
Non, on détient la moitié du capital et on a fait rentrer au travers de 3 levées de fonds, des acteurs de différents types, un fonds d'investissement qui est Euraseo,
des un tout petit qu'on connaît pas, oui, c'est vrai.
Un tout petit, des family office, notamment celui de Pierre Cusque-Morizet, celui de Frédéric Jousset, quelques autres, et également des privés qui viennent notamment de l'immobilier et notamment l'immobilier de bureau, qui sont des patrons de foncières ou banquiers spécialisés.
Et vous arrivez à contrôler votre développement, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs dans le groupe aujourd'hui ?
On est 170.
170 collaborateurs. C'est quoi le constat que vous faites, rétrospectivement, vous qui venez d'un monde différent de l'immobilier ? 2016, ça fait quoi ? Bientôt 10 ans ?
J'ai l'impression que ça en fait 50, mais ça en fait 8
ça
seulement.
Fait 10, voilà, 10 ans, 14 actifs, 25 000 m² opérés. Ça, vous allez beaucoup, beaucoup vous développer. Il y a un vrai ADN. J'aimerais que vous nous expliquiez justement, c'est quoi cet ADN que vous avez ? Il y a une formation spécifique ? Vous apprenez les gens à se marrer toute la journée ? Comment ça se passe ? Je caricature un peu, mais je suis pas loin quand même du truc.
J'ai 4 heures pour répondre.
Voilà, tous les services qu'on trouve, c'est très marrant en fait. C'est encore une fois, j'insiste, j'ai trouvé ça super jubilatoire.
Nous avons une obsession du client, une obsession de se mettre dans les chaussures du client. Alors imaginons quel est le produit que nous voulons tous avoir lorsque nous partons en réunion, en séminaire, en formation pour faire de l'événementiel corporate. Est-ce que nous voulons un produit sans saveur, sans lumière et avec un staff qui ne soit pas souriant? Non. Est-ce qu'on veut quelque chose de très guindé? Alors certains le veulent, mais c'est une population qui est de plus en plus réduite à la portion congrue.
Moins pendant les événements.
Et donc, nous avons décidé de créer un produit avec un angle, avec cet ADN, qui ne correspond pas à ceux qui veulent l'un ou l'autre, bon, ouais. qui sont heureusement des populations...
Quelque chose de frais.
Mais quelque chose de plus frais, et pour autant... Donc c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc c'est d'être très professionnel, mais pour autant sans être chiant.
Mais est-ce que vous faites quoi? La formation, il y a un process, il y a un manuel...
Non, c'est au niveau du recrutement que tout se passe. Si vous recrutez quelqu'un qui ne sera pas dans le moule et que vous essayez de le mettre dans le moule... ça fonctionnera pas. Donc on essaye en fait.
C'est pas évident de recruter en ce moment.
On n'a pas trop. Alors je vous dirais pas que tous les métiers sont pourvus aussi vite les uns que les autres, mais on n'a pas tellement de sujets. D'autant plus on aurait pu imaginer post-Covid, post-pandémie, que sur des métiers opérationnels on aurait plus de mal. Alors c'est pas évident de recruter de bons opérationnels. Pour autant, on voit beaucoup de déçus de la restauration ou de l'hôtellerie qui ne veulent plus travailler le soir et le week-end, qui ont envie de travailler dans un environnement qui soit sain.
Parce que vous faites du food, hein, il me semble.
Lorsqu'un client vient chez nous, il a accès à de la restauration tout au long de la journée. Petit déjeuner, c'est inclus. D'accord. Et il y a beaucoup d'autres services. Et nous le faisons aujourd'hui avec...
C'est intégré, le food?
Mais c'est des prestataires qui viennent...
Nous le faisons avec des prestataires. C'est cuisiné sur place. Nous avons des cuisines dans chacun de nos actifs.
Donc vous installez une cuisine quand il n'y en a pas.
Nous avons des cuisines qui sont des cuisines professionnelles.
Et sur le plan technique, infographique, écran, grand écran,
on a tout ce qu'il faut.
Vous êtes largement...
Notre proposition de valeur, c'est de dire à nos clients, vous venez chez nous, vous ne vous occupez de rien, vous pouvez réserver en 2 minutes sur Internet à minuit si vous le souhaitez. Nous nous occuperons de tout.
Mais c'est limité à 500 personnes.
Et pour un prix moitié moins cher qu'une offre
très haut de gamme. À quand une offre comète à 1500, 10 000 personnes?
Ouais, écoutez, il y a 5 ans, on montait que jusqu'à 150, là on monte jusqu'à 500. Ouais,
voilà.
On arrive.
Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Victor Caro. Merci à Aïcha Foll pour ce tour d'horizon du marché immobilier. Merci Sylvain à Lévy-Valency.
Merci Bérénice.
Et on se retrouve très bientôt sur Radio Immo pour un nouveau Zoom de l'info. À très vite.
Radio Immo, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.